I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Êtes-vous plutôt jupe ou pantalon? Robe ou smoking? Mini-jupe ou jupe midi? Talon ou basket? Et vous, messieurs, plutôt costume trois pièces ou t-shirt et jean? Les fringues ne sont pas votre affaire ou êtes-vous une fashion victime? Êtes-vous plutôt fast fashion, luxe ou totalement éco-responsable? Mais d'abord, qu'est-ce qu'être une fashion victime? Et qu'est-ce que l'élégance? Alors vous, Gabriel, qu'en pensez-vous?
Une définition de l'élégance. Mon Dieu, c'est difficile, vous posez des questions bien difficiles. Parce que c'est que l'élégance, beaucoup de choses, vous savez, ça comporte beaucoup de choses. Enfin, je ne peux vous dire que ce que je répète sans arrêt, qui pour moi est un fait, mais que peut-être tout le monde ne comprend pas, je trouve que les femmes sont toujours trop habillées et qu'elles ne sont jamais assez élégantes.
Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je reçois une invitée qui est un véritable laboratoire d'idées à elle toute seule. Elle est née à Dakar, a grandi à New York et à Paris. Véritable touche-à-tout, journaliste, conceptrice, auteure d'un city guide sur Paris, consultante, rédacteur en chef du magazine Jalouse, aujourd'hui elle est à la tête de la marque Kilomètre Paris. Kilomètre, car les voyages font partie de son ADN. Bonjour Alexandra Sénès.
Bonjour Valérie.
Alors, est-ce que ce portrait te convient ?
Qu'est-ce qu'il manque ? Pas grand-chose. Commençons par la fin.
Par Kilomètre Paris ?
Oui.
Alors, on va en parler après. D'abord, on va chiffonner un petit peu ensemble, d'accord ?
Volontiers.
Alors, j'ai l'impression, en lisant tes multiples interviews dans la presse, que tu es un électron libre dans la mode.
Électron libre, oui, je l'ai travaillé. Je l'ai travaillé malgré moi. J'ai commencé dans la mode à 17 ans. J'ai fait un stage au magazine Elle et fait mes études à la Sorbonne tout en étant journaliste. Et j'ai été parachutée dans ce milieu parce que ma famille vient pas du tout, n'est pas parisienne, enfin est parisienne de naissance, mais on est arrivé tard à Paris. Et je me suis j'ai découvert qu'il y avait des tribus, j'ai découvert qu'il y avait des guéguerres, qu'il y avait ceux qui s'habillaient en noir, ceux qui s'habillaient en couleur.
Tu parles du milieu de la mode parisien, là.
Le milieu de la mode parisien, mais le milieu de la mode américain a d'autres règles. Mmh. Le milieu de la mode milanais a encore d'autres règles. Et donc, dans celui dans lequel je naviguais, c'est-à-dire la Paris, j'adorais m'habiller en orange pour aller à un défilé Yoji Yamamoto, par exemple. Mmh, mmh. Ça ne se fait pas du tout.
Normalement, on s'habille en noir, je le précise pour les auditrices.
Voilà. Donc, je me suis retrouvée à une époque, au début, j'ai été au 10e rang d'un défilé. Puis, un jour, je me suis retrouvée au premier rang parce que j'ai dirigé des magazines. Et au premier rang, c'est vrai qu'on joue le jeu et on. Voilà. Et j'ai toujours. Si je suis fan de Balenciaga, je ne m'habille pas en Balenciaga au défilé Balenciaga, certainement pas.
Donc aussi un peu rebelle. Alors, on adore ça chez Chiffon.
Rebelle, c'est une manière de. Oui, c'est ma personnalité. C'est pas pour choquer les filles qui s'habillent en Balenciaga le jour où elles vont au défilé Balenciaga. C'est vraiment ma personnalité. C'est ma manière de mélanger, c'est ma manière de m'habiller et mon humeur n'est pas je vais à un défilé donc je m'habille comme ça, je vais à une soirée donc je m'habille comme ça. J'ai une manière de m'habiller d'ailleurs.
Tu vas nous en parler, voilà. Tu vas nous en parler. Ne dis pas tout maintenant. Non. Comment étais-tu petite fille ? Plutôt garçon manqué ou robe à smock ?
Robe à smock à cause de ma mère et robe à smock que je pourrais mettre aujourd'hui. Donc, ciré jaune et bottes en plastique parce qu'il pleut à New York et donc en colère d'être en ciré jaune et en bottes en plastique alors que c'est obligatoire, il pleut tellement qu'on n'a pas le choix. Ou des macarons, je détestais les macarons, c'est-à-dire des nattes à la manière de Leila dans Star Wars. Et aujourd'hui, c'est tout ce que j'aime et c'est tout ce que j'ai imposé à ma fille moi aussi dès qu'elle est née.
Comment fais-tu pour être toujours en avance en fait sur le temps au niveau de la mode, je précise.
Oui, alors pour être en avance sur le temps dans la mode, il faut avoir les écoutilles, faut avoir des ouïes dans le milieu de l'art, dans le milieu du cinéma, dans la rue, en regardant le 20h. C'est-à-dire que c'est vraiment être anthropologue de sa propre vie et sociologue dans sa manière de regarder. C'est-à-dire être vraiment sensible. S'il y a une tendance kale, qui est un genre de chou qui est à la mode aux États-Unis, qu'on retrouve dans des restaurants bio super chers. À Paris,
oui.
Et maintenant partout.
Mais apparemment, c'est détrôné maintenant le kale. Hein.
Ah bon ? Donc détrôné par quoi ?
Je ne sais pas, mais maintenant, t'as d'autres choses qui arrivent.
D'autres choux,
exactement.
D'autres topinambours. Et donc, c'est vrai que le kale va avoir une incidence sur un Instagrammeur comme un Jean Pigozzi, qui est un collectionneur d'art africain qui va, où son Instagram est entièrement sur la couleur verte du kale. Donc, il va avoir de l'humour là-dessus. Puis ensuite, un homme politique va le citer. Enfin, c'est-à-dire que ce sont des lames de fond, en fait.
En fait, tu es une tendanceuse.
Ah, je déteste ce mot, mais je suis... Alors, on m'a donné un autre mot aussi, on m'a dit que j'étais une slasheuse.
C'est aussi slasheuse.
Slasheuse, ça veut dire que vous faites plusieurs choses. Donc, vous êtes... c'est pas vraiment le cas pour moi, mais parce que j'ai pas un Instagram, mais ça peut être instagrammeuse, journaliste, créatrice
directeur
de mode,
artistique.
Directeur artistique, etc. C'est quand vous accumulez des casquettes. Je trouve que slasheuse... Pour finir sur slasheuse, les dans le monde entier, on peut faire plusieurs choses. En France, on peut pas faire plusieurs choses. Sinon, vous êtes ou mauvais DA, ou mauvais journaliste. Alors, c'est en train de changer.
Ça, je trouve ça très intéressant. Tu es en train de dire qu'en fait, en France, tu confirmes l'avis de beaucoup. C'est-à-dire qu'en France, quand tu rentres dans une case, tu y restes.
Ah, complètement. Je vous donne un exemple. Le père de ma fille était photographe. Il a ouvert des restaurants. Et on lui a dit qu'il était donc un mauvais photographe. Et quand il a ouvert son resto, je lui ai dit, alors c'était il y a quelques années quand même, mais je lui ai dit, mais va tourner ce clip, puisqu'il devait tourner un clip, pendant que je dirige ton resto. Et donc en gros, il était catalogué restaurateur, alors qu'il pouvait tout à fait travailler le week-end, faire des photos. Et donc les journaux l'envoyaient moins sur des sujets. Et moi, le jour où je l'ai remplacé, un resto parisien, il y avait un Jean-Marc Benhamou, qui était le patron d'un journal qui s'appelle Globe à l'époque, qui était un hebdo politique, qui me regarde et qui me dit « Ah, bah tu fais plus partie des nôtres !» Et qui considérait que je n'étais plus journaliste, voilà. Parce que j'étais dans un resto. Et j'ai fondu en larmes, je suis dans un resto, dans les cuisines, dans les bras des Sri Lankais, j'ai fondu en larmes en leur disant « c'est horrible, je me suis grillée !» Ils étaient « mais non madame !» J'ai eu l'impression que juste le fait de dépanner mon mec, je m'étais grillée dans le milieu. Donc ce qui est absurde, c'est ridicule. J'avais 18 ans ou 20 ans à l'époque, aujourd'hui évidemment je raisonnerais pas comme ça.
Mais c'est vrai que, tu peux le confirmer, moi je l'ai à New York, t'es avocate, t'en as ras-le-bol, t'as envie de devenir vendeur de cookies bio, c'est tout à fait possible.
Ah oui, au contraire, jongler, avoir plusieurs vies, et aujourd'hui, même en France, ça commence à être possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quitter un job...
C'est peut-être par la force des choses France aussi.
C'est vrai que ça peut être par la force des choses, et le côté entrepreneuriat, peut-être qu'à 40 balais, on commence à se dire, mais si j'étais pas sous la tutelle de quelqu'un, et si je montais ma boîte. Par contre, les banques suivent pas derrière, donc c'est alors qu'à l'étranger, les banques suivent.
Voilà le nerf de la guerre. Quel est ton style ? Allez, on va chiffonner un petit peu là.
Alors, mon style...
Au quotidien, comment tu te définirais ?
Je sais pas si je peux me définir, mais on m'a dit un jour, t'es une fille en couleur. Donc je vais le reprendre, c'est le magazine 20 ans qui avait écrit ça sur moi, et c'est une photographe vietnamienne qui s'appelle Mai Lucas qui m'a catalogué fille en couleur, et depuis l'âge de 18 ans je joue là-dessus. Donc j'aime, et pour moi le noir, je peux être tout en noir, je suis en couleur, mais je joue beaucoup avec les couleurs.
Quelle est ta couleur préférée ?
Orange.
Alors est-ce que tu peux te décrire là ?
Aujourd'hui,
comment es-tu habillée pour chiffonner avec moi ?
Pour recevoir Valérie, j'ai décidé de porter... Alors, je commence toujours, quand je m'habille, par les chaussures. C'est très étrange.
Je ne vais
pas penser, est-ce que je mets une robe ? Est-ce qu'il pleut ? Alors, c'est drame, parce que je vais me retrouver dehors en tongs.
Sans tes bottes
alors
de
qu'il neige. Mais c'est vrai, je ne regarde absolument pas la météo. Et je peux sortir en blanc, et au contraire, quand il fait un temps pourri, et revenir dégueulasse. Donc là, j'ai des bottes vintage, des bottes que j'ai trouvées dans une super boutique qui est dans le 11e, qui a qui a un stock de vieilles chaussures d'hommes. Donc là, ce sont des bottes en cuir naturel, camel, mmh. voilà, d'hommes. J'ai un vieux treillis tout taché, acheté dans un surplus.
Mmh. Donc adepte du vintage, on va dire, je pense.
Ouais, pas 100%. Il faut que j'ai une marque ou il faut que j'ai quelque chose de nouveau avec le vintage. Je peux pas être 100% en vintage. J'ai des amis qui me conseillent quand on va dans une boutique de vintage qui va, je vais pouvoir te conseiller, Valérie, ou conseiller quelqu'un, dans une boutique de vintage et vraiment trouver la pépite pour quelqu'un d'autre. Mmh. Pour moi, je suis un tout petit peu plus. Alors, un treillis, c'est facile. Ça, je sais faire. Les vêtements de travail, je suis très douée. Mmh. Et ça reliera à Kilomètre, dont on parlera plus tard. Mais le vêtement de travail, je sais le choisir. Et j'ai une chemise qui est comme une chemise courta, un peu. C'est une chemise longue qui ressemble à une robe, qui est une chemise inspirée d'une chemise ancienne, qui est une chemise de. Kilomètre, qui est une chemise qui est indigo, qui est dans un coton. Alors, est-ce qu'il faut que je rentre dans les détails et
pas trop, voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce sont les motifs, en fait.
Elle est couverte de portraits.
Voilà, de femmes
Non, il y a des hommes. Il y a 38 personnes sur cette chemise.
Avec les prénoms.
Avec
des prénoms. Là, j'ai Olivier sur ton coude. Voilà.
Alors, Olivier, c'est Olivier Saillard, qui était le directeur du musée Galliera jusqu'au mois de juin, qui va maintenant être directeur artistique d'une marque de chaussures. En fait, je sais qu'on va parler de Kilomètre plus tard, mais c'est une chemise qui célèbre un panthéon de Parisiens qui, pour moi, font Paris aujourd'hui.
Alors, t'as qui dans les Parisiens qui font Paris, là, justement ?
J'ai autant.
Alors, Aurélie. Il y a une Aurélie.
Aurélie, si tu me poses une colle, j'ai Golshifteh Farahani, qui est une Iranienne, qui est une actrice iranienne. J'ai une fille qui s'appelle Roxane, qui dirige un pôle qui s'appelle Projet F, qui est un pôle de start-up. Elle a elle-même une start-up qui s'appelle Start Her, qui est plus dans la sphère des start-up. Ou Victor et, alors lui, je ne les connais pas. Il s'appelle Tigris, oui, c'est ça. Hein. Enfin, qui sont en fait deux jeunes chefs qui ont une série de pizzas dans Paris qui s'appelle Big Mama. Enfin,
le Pink Mama, le Big Mama, le Mama Primi.
Exactement. Okay. Donc ça, c'est deux jeunes garçons que je connais pas du tout, mais j'aime le développement concept. De leur société, de leur pizza. Kamel Menour, qui est un galeriste que j'adore, qui est très très humain et qui est très connu. Mais qui a gardé une âme d'enfant, pardon. Voilà. Et Gaël Fay, qui est un jeune écrivain.
On connaît bien.
Voilà, qui a écrit. Voilà.
Donc, en fait, toi, alors, ça rejoint la question que j'avais posée sur la Parisienne. Finalement, pour toi, la Parisienne, c'est un melting pot et il n'y a pas vraiment de Parisienne type.
Non. La Parisienne, ce sont. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être un médecin, ça peut être les blogueuses qu'on cite tout le temps, qui sont les Jeanne Damas ou Sophie Fontanelle. Voilà, donc ça va de ceux que la presse célèbre aux inconnus, ce que fait beaucoup Chiffon, qui est d'interviewer autant une Marseillaise qu'une journaliste parisienne. Paris est fait de personnages, en fait, plus que de personnalités pour moi.
Quel est ton dernier achat?
Mon dernier achat mode.
Mode.
À Montréal, il y a 4 jours, un poncho tricoté comme une couverture, en fait, bleu, blanc, rouge, très, très, très chauvin et qui a l'air d'être très, très chaud, que j'ai pas encore mis.
Quel est le vêtement que l'on ne trouvera jamais dans ta garde-robe? Un truc ou un vêtement que tu ne peux pas porter?
Oh là, ça c'est, je pense qu'il y a tout. Alors aujourd'hui, j'ai un peu grossi, je pourrais pas porter une guêpière, mais j'ai des guêpières dans ma garde-robe et j'en aurai encore. Je peux tout avoir et tout accessoiriser. J'aime bien jouer avec tout.
Mmh. Donc pour toi, il n'y a pas d'interdit?
Non, aucun. Et je vais vous donner, ça me fait penser, moi, interdit, à ma mère qui me dit, mais tu mets pas tes vêtements d'hiver, quand elle voit mes placards, mais dégueulés, mets tes vêtements d'hiver où c'est mêlé en hauteur.
Mmh. Et en été.
En été, ouais. Voilà. Et donc, voilà, ça, ou cette phrase ou une autre que j'ai dite à ma fille, et j'ai eu honte de lui dire là récemment parce qu'elle est à Montréal, et je lui ai dit peut-être que le blanc tu peux le mettre dans ton, parce que elle va réellement devoir mettre ses affaires d'été dans, en hauteur, parce que c'est la seule condition pour le faire, parce que moi je mets des vêtements d'été en plein hiver et des vêtements, parce qu'en plus je voyage mais aussi à Paris, j'hésite pas à mettre un petit débardeur d'été, et ma fille, je lui ai dit mais pourquoi tu mets pas le blanc dans ton ta housse été. Elle m'a dit maman, mais pourquoi le blanc, je pourrais pas le mettre en hiver. Et j'ai eu honte de ma réflexion, parce que c'était une réflexion de maman et de peut-être qui ressemble à celle plutôt de ma maman et d'une génération où on mettait pas de blanc en hiver et on mettait pas d'été en hiver. Je trouve qu'aujourd'hui on met de tout.
Quelle est ta définition de l'élégance? Qu'est-ce qui fait, par exemple, tu croises une femme dans la rue et tu te retournes sur elle, tu dis waouh, cette fille, il y a un truc.
L'élégance, c'est de porter le vêtement et que le vêtement vous ne porte pas. C'est-à-dire que c'est que vous avez quelque chose de Louis Vuitton entièrement griffé, soit vous êtes gommé par ça, soit au contraire, c'est magique et vous êtes le type de femme à pouvoir porter un vêtement sur lequel il y a écrit j'adore, et vous êtes canon. Mais c'est très compliqué, cette frontière, il faut savoir jouer avec un vêtement qui est beaucoup trop coloré pour vous, que vous adorez pourtant, qui vous va de temps en temps, et il y a des jours où il ne vous va pas. Donc c'est trouver son propre style sans se faire avaler en fait parce que c'est la mode du jaune, ne mettez pas de jaune, parce que c'est la mode de, je sais pas, du Bermuda, vous avez un gros cul ou des bourrelets, non, mettez pas de Bermuda, enfin voilà,
il faut arrêter les dictates de la mode en fait.
Ah oui, vraiment. Qu'on ait envie de mettre du jaune parce que c'est à la mode, je comprends, mais il faut trouver où le mettre. C'est-à-dire, ne pas le mettre près du visage si vous êtes rousse. Avoir un sac pétard jaune, alors que c'est pas du tout votre style, parce que c'est plutôt du genre à mettre du gris flanelle. Et là, vous mettez un sac, mais ne mettez pas un pantalon jaune parce que vous allez pas avoir l'air ridicule, mais vous allez pas vous sentir forcément bien, je pense.
Alors, donc, en fait, t'es en train de nous dire que finalement, suivre la mode, c'est être démodé?
Non. Il faut suivre la mode. Il faut. Alors, en effet, aujourd'hui, il n'y a plus de numéro spécial écossais. Il n'y a plus de numéro spécial
c'est
rouge.
C'est vrai.
Ça, comme il y a eu dans le L il y a des années. Et qu'aujourd'hui, c'est vous, les chiffonneuses, qui faites la mode. C'est-à-dire, c'est vous qui, grâce à des marques comme Mango, H&M et toutes ces marques pas chères,
de fast fashion,
vous arrivez à styliser et à pouvoir ressembler à une fille Céline. Mais il faut quand même se saigner, moi je trouve, pour acheter une pièce chère de temps en temps, surtout quand c'est de la couleur. C'est-à-dire que il faut ne s'achète pas chez H&M. On achète un rouge chez Saint Laurent, un rouge chez peut-être Isabelle Marant ou je sais pas quoi, enfin des marques un peu plus chères, parce que vous allez le garder pendant des années, et ce rouge vous pourrez le remettre avec un violet dans 3 ans, avec un noir, enfin il sera jamais démodé.
Généralement, quand tu vois les conseillères en style te disent, si vous achetez un vêtement cher, prenez un basique. Basique, sous-entendu, un vêtement de couleur marine, noir, gris.
Non, je suis absolument pas d'accord avec ça. Mais je comprends ce conseil qui est, prenez la veste marine ou la veste smoking noire de Saint Laurent. Moi, je pense que... alors, si vous ne mettez jamais de couleur, évidemment, il faut prendre un beau pull bleu marine chez je sais pas qui. Mais je trouve que... un beau vêtement de couleur, un beau pull irlandais violet, s'il vient d'une belle marque, vous serez élégante. Enfin, en fait, vous aurez un chic. Vous achetez un chic dans ces cas-là. Vous achetez du chien.
Est-ce que tu as une icône de mode?
Peut-être Lee Radziwill, qui est une qui a 90 ans aujourd'hui, qui habite avenue Montaigne, et ou une icône de mode. Donc je fonctionne pas en icône. J'ai des icônes de business, de businesswoman ou businessman.
Par exemple,
des Richard Branson, même si depuis que j'ai 20 ans. Après, ça a été à un moment un Philippe Stark que j'ai bien connu. Enfin, voilà, c'est des personnages comme ça qui sont des moteurs, qui sont des locomotives qui m'inspirent plus qu'un Michael Jackson ou une actrice française ou américaine.
Alors, dans une interview de Sophie Abru, c'est ça ?
Abria.
Tu as dit que le marché de la mode est saturé. Qu'est-ce que tu en penses ? Pourquoi tu avais dit ça ? Dans quel cadre ?
Je ne sais plus dans quel cadre j'ai pu le dire, mais si là, je l'entends comme quand un créateur doit faire 14 collections, parce que c'est le cas, par exemple,
notamment pour les Fashion Week. Ouais.
Voilà, il va devoir penser le resort. Il va devoir penser. Donc, le resort, c'est ce qu'on appelle la collection croisière qui est juste avant Noël, qui va sortir en boutique en novembre et qui va vous donner l'impression que c'est l'été ou en plein décembre parce que vous partez à Saint-Barth. Pauvre Saint-Barth qui vient de se prendre une Irma sur la tête. Donc le fait d'accumuler sans arrêt, de demander à des créateurs de faire 18 000 collections, une collection de lunettes, une collection d'un, fait que le cerveau d'un créateur est saturé, la proposition est saturée, c'est-à-dire que c'est épuisant, et ce côté non-stop d'avoir à se réinventer, pourtant ça a toujours existé à cause des saisons, déjà été hiver, mais voilà, ça suffisait deux divisions.
Donc c'était dans ce sens-là,
je pense.
Parce que du coup, je me suis dit, alors, Alexandra dit que le marché de la mode est saturé, et en même temps, tu plaques le journalisme pour créer ta propre marque de vêtements. Donc je me suis dit, alors.
Alors, est-ce que je suis cohérente ? Alors, je vais vous donner un sentiment que j'ai eu. L'année dernière, j'ai été invitée au salon Who's Next pour juste avoir un espace tendance, enfin un espace avec la marque Kilomètre. Je me suis baladée dans le salon alors que j'avais bossé pour des salons. Oh, et j'ai eu un mal au cœur en me disant mais qu'est-ce que j'ai fait, mais quelle connerie, mais j'avais mal au cœur parce que je voyais un Coréen génial, j'ai beaucoup de merde, mais beaucoup au mètre carré.
Pourquoi tu te disais que t'avais fait une connerie?
Qu'est-ce que je fais, pourquoi moi je rajoute encore une marque sur ce marché, et ça m'a fait flipper en me disant mais je vais faire partie de toutes ces marques qui vont mourir un jour, de toutes ces marques qui vont galérer, etc. Donc j'ai eu un haut le cœur. Puis après, le lendemain, je me suis réveillée de bonne humeur en me disant ce que je fais bien, je prends mon pied, je me réveille tous les matins.
Tu l'as créé il y a combien de temps,
Kilomètre ? Il y a deux ans. Donc il y a deux ans, j'ai découvert par hasard un stock de chemises anciennes sur une brocante, et je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ce stock de chemises, parce que j'ai aucune raison, je suis ni brocanteuse, je l'ai déjà raconté, mais ni créatrice de mode.
Donc, oh mais tu es une slasheuse, donc tu aurais pu l'être.
Non, parce que j'aurais pu être brocanteuse peut-être, mais certainement pas créatrice de mode, parce que d'abord j'en viens de ce milieu, je l'ai beaucoup travaillé.
Donc tu ne te dis pas créatrice ?
Non, hein, non. Alors, je me dis, pour jouer sur les mots, quand on me dit créatrice de mode, en fait je me pince un peu en me disant mais non, d'abord je suis incapable de dessiner un vêtement, je suis incapable de choisir un tissu, donc c'est ça un créateur de mode. Je suis incapable de dessiner une collection, donc c'est ça un créateur de mode, et c'est un vrai métier.
Ça me fait rebondir sur une petite chose. C'est vrai qu'en ce moment Instagram notamment permet à des filles qui viennent, qui ont des métiers divers et variés, de se lancer, de s'auto-proclamer créatrice de mode sans avoir fait d'école.
Alors
comment tu réagis face à ça?
J'agis mal parce qu'en fait, quand elles le font, elles vont se la jouer créateur de mode et décider de sortir une marque, une capsule, on appelle ça, c'est-à-dire c'est une micro-collection de mode avec
des
collaborations, et sans s'entourer. C'est-à-dire sans demander à sa meilleure copine qui est créatrice de mode ou à son meilleur pote qui est coloriste.
Tout le monde n'a pas de copine créatrice de mode non plus.
Alors, ou demander, moi je veux bien, mais je vais, envoyez-moi un étudiant de la Chambre syndicale de la couture, qui est une école que j'adore à Paris, ou d'une autre école de mode, c'est la Sainte-Martine à Londres, et en disant moi je veux bien, je fais ça avec vous, mais vous me donnez trois books de trois jeunes qui sortent d'école et je vais travailler avec lui. Là oui, là il y a une force, là et ça ne veut pas dire les écouter, vous n'aimez pas leur style, c'est y aller, moi j'ai envie que de jeans, mais non, j'aime pas son style. C'est vraiment une collaboration, dans ces cas-là, sans que la personne apparaisse. Cet étudiant, il serait ravi d'avoir à faire ça, et vous n'êtes pas obligé, vous pouvez dire que c'est vous qui avez créé, mais ce n'est souvent pas le cas, et je trouve ça dommage.
Donc, revenons à Kilomètre Paris, donc tu as trouvé ce stock de chemises, et
je l'ai mis dans ma cave en disant, qu'est-ce que je fais avec ces 400 chemises ? Et il y a 5-6 ans, fait une collection de t-shirts qui était vendue chez Colette pendant un an, qui étaient des t-shirts sur lesquels j'avais inscrit des coordonnées GPS, et j'avais pointé à l'époque une quinzaine de destinations, donc c'était il y a, disons, 6 ans, et qui étaient des destinations qui pour moi étaient des Brooklyn de demain, ou des la Friche par exemple à Marseille, des friches de demain, ou des nouveaux quartiers, ou des nouvelles plages. On en aura le bol d'entendre parler des mêmes, et il se trouve que 6 ans plus tard, je me suis pas trompée. C'est-à-dire que j'ai une très forte intuition parce que je pense savoir voyager.
Tout à l'heure, je te disais que t'étais avant-gardiste.
Voilà, donc mais sur les lieux, sur le voyage, alors j'essaye de l'être dans plein de domaines, à part en musique où je suis nulle, mais j'ai une bonne intuition dans l'art contemporain, mais parce que je me nourris, je vais dans toutes les biennales, enfin je me renseigne, je lis beaucoup et tout, mais dans le voyage, là carrément je me la pète, je sais que je suis bonne. Donc je vais dans une ville, je vais me perdre et je vais trouver la bonne rue, ou la bonne rue dans laquelle je suis heureuse d'être ce jour-là, ou la rue montante dans laquelle APC et Aesop, qui sont deux marques qui vont...
APC, marque française, voilà, Aesop, une marque australienne
de beauté. Ils vont s'installer là et ensuite derrière vont suivre tous les autres. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la gentrification. C'est-à-dire c'est quand les quartiers
se boboïsent. J'aime pas le terme, voilà, mais c'est ça. Hein.
Et passent d'un quartier ouvrier à un quartier où de gens qui s'installent où il y a pas de, par exemple, moi je me suis installée il y a 20 ans dans le 9e arrondissement. Il y avait pas d'école bien pour ma fille et donc je l'avais mis dans une garderie, mais c'est un peu galère, c'était un peu bordélique. Aujourd'hui c'est un quartier dans lequel il y a toutes les écoles.
Il y a toutes les épiceries bio de la terre. On vend du kale, des nouveaux choux, on vend tout.
Voilà, exactement. Et donc, je me suis perdue. Mais bon, voilà,
tu parlais de Kilomètre Paris.
Cette marque de t-shirt que j'ai fait il y a quelques années qui s'appelait Kilomètre. Et j'adore ce nom. J'adore ce nom parce que d'avoir déposé les kilomètres, je trouve que c'est un mot magique qui se lit en anglais et en français. Et je me suis dit, je vais faire revivre Kilomètre. Je vais, au lieu de sérigraphier ces chemises, je vais broder des lieux sur ces chemises. Et je venais d'enseigner au Mexique, j'avais rencontré des brodeuses et en fait s'il y a quelque chose qui m'intéresse dans la mode aujourd'hui, c'est l'artisanat. Donc c'est très mode de dire ça parce que tout l'artisanat est à la mode, etc. Mais s'il y a quelque chose où j'ai le sentiment que je peux diriger, je peux parler à un artisan, je peux lui dire pourquoi ce panier est pas bien, pourquoi ce panier doit être plus grand, pourquoi sa technique de broderie me plaît. Je vais pas reconnaître le point, mais je pense que je sais acheter sur les marchés, etc. Donc je vais être plus à l'aise dans l'artisanat et les talents, quand on voit ces femmes qui brodent, quand on voit les tisseuses de paniers, parce que je fais aussi des paniers, etc. Où c'est donner du travail à ces gens, c'est merveilleux. Vous apprenez, vous êtes obligé de voyager. Je suis obligé d'aller à Fès, je suis obligé d'aller au Mexique, je suis obligé d'aller à Bombay, ce qui est une obligation magique. Et je suis obligé d'être au fin fond de Bombay et pas dans le centre-ville, dans un village ou au fin fond de Calcutta. Et je me retrouve à déjeuner avec des familles par terre qui se sont saignées pour me recevoir. Et donc là, j'y retrouve quelque chose pour moi, en fait, aussi.
Dans la présentation, j'expliquais que c'est ton ADN, en fait, les voyages. Mais ça, c'est dû à ton enfance aussi, je pense.
Oui, je ne peux pas vivre sans me déplacer. Et me déplacer, ça veut dire... là, je vais à Arcueil dans 5 minutes. J'aimerais éviter parce que je vais chercher des papiers. Mais je me déplacer...
C'est très français d'aller chercher des papiers, en fait. Et c'est la réalité de toute maman.
Exactement.
En fait.
Je vais chercher les notes de bac de ma fille.
Voilà.
Mais le me déplacer quand je suis dans le train, quand je suis dans l'avion, quand je suis dans un bus, quand je suis dans une voiture, quand je suis en scooter, je suis heureuse. En fait, je réfléchis, je me déconnecte en fait, et j'ai pas le choix. Je peux pas avoir vraiment de téléphone dans la main. Donc mon téléphone sert comme carnet de notes et tout. Donc c'est un moment très important de créativité pour moi.
En juin dernier, tu as participé au mouvement anti-fashion à Marseille, mouvement qui a été initié par Lié Delcort. Pourquoi as-tu pris cette...
Initié par Stéphanie Calvino.
Le mouvement anti-fashion.
Le mouvement, ah oui, tout à fait.
Le mouvement anti-fashion a été initié donc par Lié Delcort il y a quelques années.
Elle a écrit un manifeste passionnant sur le fait que la mode était morte. Et à chaque fois qu'elle commence ses conférences, elle commence en disant la mode est morte, mais j'aime la mode. Pour être paradoxale et pour dire qu'en gros, la mode est morte telle qu'elle est aujourd'hui.
Et à Marseille, donc c'est Stéphanie
Calvino
qui a
initié, en fait, qui est tombée amoureuse. Elle est tombée amoureuse de ce manifeste anti-fashion, du manifeste de Lié Delcort. Elle l'a invité à venir à Marseille l'année dernière. Elle m'a invité aussi à participer. On était très peu, on était, je vais peut-être sans doute me tromper, mais peut-être une dizaine ou une quinzaine d'intervenants. Et un an plus tard, elle m'a réinvité encore cet été, là au mois de juin. Et j'aimerais bien, j'adorerais être réinvitée l'année d'après et pour 15 ans, et que ce soit le début d'un vrai
mouvement.
Et parce qu'en fait, et c'est ce qu'on a initié, quand je dis on, parce que j'ai eu des conversations avec Stéphanie et Lee, c'était anti-fashion, il y a le mot fashion, donc ça veut dire mode, et je trouve ça dommage, et je crois que Lee et Stéphanie encore plus. Et c'était, j'ai proposé par exemple à Stéphanie d'inviter un architecte qui s'appelle Lionel Jadot, qui est un architecte belge, qui a une manière de raisonner. Par exemple, là, il fait des immeubles à Bruxelles qui s'appelle Co-Apps, qui est sur la cohabitation, mais pas la cohabitation comme on l'entend où on partage un appartement.
Non, on partage une cuisine, c'est pas ça.
On partage une cuisine, etc. Enfin, et il en est à son 10e immeuble. Et je lui dis, voilà, pour moi, ce que fait Lionel Jadot, c'est aussi intéressant que de démonter le système de la mode. Et donc, il est venu parler, Stéphanie l'a invité, et puis ils ont invité la ministre de l'éducation norvégienne, qui a une autre manière de raisonner sur l'éducation. Donc, l'idée d'anti-fashion...
C'est global, en fait.
Ça serait bien. Alors, pour le moment, c'est un peu très mode, mais ça serait bien que ce soit très mode et ouvert à d'autres disciplines.
Est-ce que chiffon est anti-fashion pour toi ?
Oui. Et je suis ravie de participer à ce podcast parce que j'aime le fait que Valérie, enfin je vais te cirer les pompes, mais j'aime le fait que tu partes à Montréal bientôt et que tu ailles à Rennes demain et que tu n'interviewes pas systématiquement les mêmes qu'on voit partout dans la presse. Je trouve que c'est intelligent que tu aies une communauté de femmes très différentes.
Donc là, c'était un petit message pour mes auditrices et auditeurs aussi.
Pour vous, oui, pour vous.
J'espère. Alors justement, un petit conseil d'Alexandra pour les auditrices qui se sentent, qui ont du mal à s'habiller, à trouver leur style. Qu'est-ce que tu peux dire à une femme qui te dit, voilà, moi j'ai l'impression d'être complètement démodée, j'arrive pas à suivre les tendances, je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces femmes ?
Alors, ces femmes, c'est certainement pas suivre... alors, vous êtes fan de Beyoncé, vous suivez Beyoncé, mais certainement pas avoir une aigreur ou une jalousie ou un espoir, parce que c'est pas forcément bourré de négatif, ça peut être juste positif en disant un jour je pourrais être aussi chic ou aussi belle ou aussi bien habillée qu'une Beyoncé ou qu'une Simone Veil. C'est... Alors, peut-être que c'est se violer un peu, c'est se forcer. C'est-à-dire, j'ai une amie qui s'appelle Alexandra, qui bosse pour Orange, et qui, alors, quand elle va écouter ça, elle va être morte de rire, c'est mon étalon. C'est-à-dire que je l'emmène dans des soldes de presse. Bon, elle a la chance d'avoir une fille comme moi,
à une copine,
et qui est dans la mode.
Ouais, et qui partage les soldes de presse.
Et donc, elle va mettre une jupe et elle va me dire oh là là, c'est bien ça pour le week-end. Oh, et je lui dis mais non, Alexandra, il faut que tu le mettes au boulot. Et tout d'un coup, je réalise à quel point on n'est pas dans le même monde et à quel point, quand on est chez Orange, on ne peut pas arriver avec une jupe violette, avec un zip ou avec une échancrure, etc. Donc, c'est comment réussir à mettre cette jupe violette avec une échancrure de pute, avec un blazer, une chemise, être élégante, être à plat au lieu d'être un talon, etc.
Chez Orange.
Voilà. Donc, c'est ça, être mode ou c'est ça, être stylé. Alors, peut-être que je vais un peu loin avec cette jupe violette, mais c'est se dire qu'un chemisier à pois, c'est pas pour le week-end, c'est pas pour le soir. Donc, je ne sais pas si ça
finalement,
aide.
Tu as envie de dire qu'il faut tout oser.
C'est oser pour soi. Et dans ces cas-là, vous allez imposer au regard des autres que vous n'êtes pas olé olé ou que vous n'êtes pas ridicule parce qu'on va vous dire mais comment tu oses. Voilà,
Alors, ça me fait penser, certaines fois, mes auditrices ou les filles qui me suivent sur Instagram me disent oh, moi, je n'ose pas parce que dans ma ville, ça ne se fait pas de sortir en pyjama ou en sabot. Tout le monde me regarde. Qu'est-ce que tu réponds à ça ?
Ouais. Le pire, c'est cette tendance qu'il y a eu depuis un an là de mules, de mules fourrées de Gucci et copiées. Voilà, donc la mule fourrée qui ressemble quand même juste à des pantoufles, très très compliquée à porter, vraiment. Mais vous tombez amoureux de ça, l'original, le Gucci ou la copie. C'est comment faire pour, là, dans ces cas-là, il faut garder vraiment votre style. C'est-à-dire, vous les avez au pied, c'est le seul détail mode. Il ne faut pas rajouter
et
en plus.
Et le regard des autres.
Et surtout, alors, gommer le regard des autres.
Voilà, gommer le regard des autres.
Voilà, comment. C'est se dire, mais je les adore, ces chaussures. Donc pourquoi est-ce que. Voilà, mais c'est vrai que c'est là où il ne faut pas être porté par les pantoufles, mais porter les pantoufles.
Eh bien, Alexandra, je te souhaite de faire beaucoup de kilomètres avec Kilomètre Paris. Quels sont tes projets, là ?
Un projet
pour kilomètres,
un club des voyageurs qui est en fait, j'ai demandé à des personnes un peu plus connues de me donner leur destination pour vendre ses chemises au profit d'une association qui s'appelle la Fondation Zelidja, mm-hmm. qui est une fondation qui fait voyager depuis 1934 des enfants entre 17 et 20 ans. Et qui, grâce à 1000 euros, l'enfant peut partir un mois et demi, deux mois, faire un voyage de ses rêves. C'est-à-dire un voyage qui est, ça peut être la calligraphie en Algérie, comme le cheval en Mongolie, ou voilà, donc c'est des thèmes. En fait, ces enfants présentent un dossier et sont sélectionnés. Ce sont des enfants qui peuvent avoir des problèmes financiers, mm-hmm. d'être dans des familles mm-hmm. pauvres, mm-hmm. mais aussi des enfants qui ont juste un projet de voyage, peu importe s'ils viennent d'une famille bourge ou pas. Et donc, ce club des voyageurs, qui n'est pas encore terminé, ni je vais, alors je sais pas encore comment je vais les vendre ces chemises. Est-ce que c'est une vente aux enchères? Je trouve ça ringard. Est-ce que je suis en train de chercher une manière de vendre ces chemises de manière à ce que le fric aille au profit de Zelidja?
Merci Alexandra.
Merci beaucoup.
Et voilà, encore un nouvel épisode de Chiffon qui s'achève. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain. En attendant, portez-vous bien.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.